Soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Voici les titres de votre journal. Un troisième suspect toujours activement recherché après la mort de Philippe à Grande-Synthe dans le Nord. Ce jeune homme de 22 ans aurait été victime d'un guet-apens dans la nuit de lundi à mardi. Les agresseurs se seraient fait passer pour une jeune fille sur un site de rencontre. Nous ferons le point sur les derniers éléments de cette enquête dans un instant. Le choc dans un petit village du Bas-Rhin. Deux fillettes de 7 et 11 ans ont été blessées par un homme armé d'un couteau à proximité de leur école. Elles sont toutes les deux sorties de l'hôpital et présentent des blessures légères. L'assaillant qui a été interpellé présente des antécédents psychiatriques. Cela fait 100 jours déjà que Gabriel Attal est à Matignon et à cette occasion le Premier ministre s'est longuement exprimé à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Il a évoqué le déferlement de violence chez les adolescents et appelle à un sursaut de l'autorité. Vous l'entendrez donc, Gabriel Attal, dans ce journal. Et enfin, un mot de sport en Europa League. La joie des Marseillais après la qualification de l'OM pour les demi-finales face au Benfica Lisbonne. Les Marseillais, battus 2-1 au match aller, ont comblé leur retard en menant 1-0 au bout du terme réglementaire. Les Phocéens l'ont finalement emporté au tir au but grâce au héros du soir, Paul Lopez. Les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. On en sait donc plus sur les circonstances de la mort de Philippe à Grande-Synthe dans le Nord. Ce jeune homme de 22 ans aurait été victime d'un guet-apens. Les agresseurs se seraient fait passer pour une jeune fille sur un site de rencontre avant donc de le tabasser à mort. Deux suspects mineurs sont en garde à vue et une troisième personne est toujours activement recherchée. On fait le point sur l'enquête avec Noémie Hardy, Maxime Leguet et Olivier Gangloff.
Piégé, puis violemment tué. Philippe, âgé de seulement 22 ans, a été retrouvé gisant sur le parking d'un supermarché de Grande-Synthe dans la nuit de lundi à mardi, avant de succomber à ses blessures mardi soir. Pour l'instant, deux suspects âgés de 14 et 15 ans ont été placés en garde à vue et la piste du guet-apens est privilégiée. Ils ont expliqué avoir créé le profil d'une jeune fille sur un site de rencontre et donné rendez-vous à un jeune homme pour, disent-ils, le punir. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il a été retrouvé à terre avec le pantalon baissé sur les chevilles. Désormais, les policiers doivent déterminer si les suspects ont bien donné rendez-vous à Philippe ou à une autre personne. Car au moment de l'agression, Philippe était au téléphone avec un ami qui a entendu les instants avant le passage à tabac. Les agresseurs lui auraient demandé s'il était sur un site de rencontre, ce à quoi Philippe aurait répondu « Non, je suis avec un ami au téléphone ». Le mineur de 14 ans est suspecté d'avoir été le plus violent. Selon nos informations, ces deux jeunes sont décrits comme issus de milieux familiaux très compliqués. Des investigations sont actuellement en cours pour savoir si les suspects sont liés à d'autres agressions, notamment celle d'un homme de 39 ans qui a subi des violences deux jours avant l'agression de Philippe. C'est pas facile, moi
je travaille. Le choc dans un petit village du Bas-Rhin ce jeudi. Deux fillettes de 7 et 11 ans ont été blessées par un homme armé d'un couteau à proximité de leur école. Elles sont toutes les deux sorties de l'hôpital et présentent des blessures légères. L'assaillant a été interpellé par les forces de l'ordre. Il s'agit d'un homme de 30 ans qui avait déjà fait 3 séjours dans des structures psychiatriques. Écoutez ces quelques témoignages recueillis sur place.
Et j'ai vu qu'il y avait un homme qui avait un couteau en main et qui voulait faire une action...
Il voulait blesser ?
Ouais, blesser une fille, mais je sais pas comment elle s'appelle.
J'étais vraiment très choquée. Ça devrait pas se passer en 2024. Ça devrait pas se passer des trucs comme ça. Et vraiment, à mettre plus de personnes autour des écoles pour surveiller.
Une enquête pour tentative d'homicide volontaire sur mineur de 15 ans a été ouverte. Et dans cette école du Bas-Rhin, les élèves sont forcément traumatisés après cette agression au couteau. Mais selon le docteur Dominique Mastelli, qui est responsable des urgences médico-psychologiques du département, il est important que l'école reste ouverte ce vendredi. Écoutez ses explications.
La décision de l'Éducation nationale a été d'ouvrir l'école demain matin. Dans le cadre de cette ouverture, ce qui est un petit peu légitime puisque nous sommes à 2 jours des vacances, que les enfants ne restent pas sur l'idée qu'à l'école il se passe quelque chose de dramatique. Il s'agit de réassurer les enfants, de leur montrer que l'école est avant tout un lieu de sécurité, d'enseignement, où les parents peuvent confier les enfants en toute sécurité puisque, comme vous l'avez vu, les choses se sont passées au plus sécure. Je pense effectivement que ces enfants qui ont des questions doivent avoir une occasion de pouvoir les poser, ces questions, et de rencontrer leurs enseignants habituels ou peut-être aussi des psychologues pour répondre à ça, évaluer, et puis peut-être donner au-delà des conseils, parfois des rendez-vous, des rappels téléphoniques pendant les vacances si des difficultés émergent, parce que les vacances vont être assez longues pendant 15 jours. Là.
On va prendre la direction du 11e arrondissement de Marseille dans ce journal où une directrice d'école a été rouée de coups par la grande sœur d'une élève. Tout simplement parce que cette élève n'a pas pu participer à une sortie scolaire. Ses parents n'avaient tout simplement pas signé l'autorisation de sortie. Bilan pour cette directrice. 5 jours d'ITT. On va faire le point sur cette nouvelle affaire de violence à l'école avec Camille Guédon.
Coups, griffures et 5 jours d'ITT pour la directrice d'une école. Les faits se sont produits lundi à l'école de la Millière, dans le 11e arrondissement de Marseille. C'est à la sortie des classes que tout dégénère. Alors qu'un enfant de l'école n'a pas d'autorisation signée de sortie scolaire, sa mère et sa sœur arrivent devant l'école et insultent la directrice avant de pousser la grille. C'est à ce moment-là que la grande sœur de l'élève roue de coups la directrice.
Et en fait, sans raison, puisque la maman a été aussi surprise que la directrice, la jeune fille, qui était très agressive, s'est mise entre les deux et a agressé sauvagement la directrice, notamment au visage. Et la directrice, aujourd'hui, je peux vous le dire, elle est très choquée. Elle a 5 jours d'ITT, d'arrêt de travail, et elle est marquée moralement et physiquement.
2 plaintes ont été déposées, l'une par la directrice, victime de l'agression, et l'autre par l'inspecteur de l'académie Aix-Marseille, en soutien à sa collègue. Selon l'inspecteur, l'élève n'est pas mise en cause et aucune sanction n'est prévue à son encontre. Une cellule d'écoute a été ouverte et une équipe mobile de sécurité constituée d'anciens gendarmes et policiers a été déployée pour sécuriser les abords de l'école.
Le Premier ministre Gabriel Attal s'est longuement exprimé ce jeudi à l'occasion de ses 100 premiers jours passés à Matignon. À Viry-Châtillon, dans l'Essonne, le chef du gouvernement a évoqué le déferlement de violence chez les adolescents qui n'en finit plus de sévir sur le territoire. Gabriel Attal a notamment appelé à un sursaut d'autorité. Le résumé de cette prise de parole avec Sarah Varney.
C'est un déplacement sur le thème de l'autorité. Le Premier ministre Gabriel Attal est arrivé vers 10h30 ce matin à la MJC de Viry-Châtillon dans l'Essonne. Une ville récemment marquée par le décès le 5 avril dernier du jeune Chemseddine, 15 ans, passé à table à la veille près de son collège. Le Premier ministre a pu échanger avec certains jeunes et encadrants, accompagné notamment du ministre de la Justice et du maire de la ville, Jean-Marie Villain.
Le simple fait de faire d'avoir des actions dans la ville qui sont nécessaires pour la ville, mais aussi de se rendre compte que quand on fracasse un pot de fleurs dans la ville, ben, ça nécessite du boulot, et que quand on l'a rattrapé ou quand on a nettoyé un tag, ça
c'est quoi la suite?
Tu salis, tu nettoies.
Dans son discours prononcé à l'issue de ces rencontres, Gabriel Attal appelle à un sursaut d'autorité.
Comment accepter qu'on touche, qu'on salisse, qu'on s'en prenne à ce qu'il y a de plus sacré en République? Comment accepter cette spirale, ce déferlement, cette addiction d'une partie de nos adolescents à la violence? Oui, je parle de spirale. Oui, je parle de déferlement. Oui, je parle d'addiction. Et non, on ne peut pas l'excuser.
Pour le Premier ministre, la contre-attaque de la République passe par 5 points. Responsabiliser les parents, réguler la dépendance des jeunes aux écrans, sanctionner les élèves perturbateurs, se pencher sur la question du fait religieux à l'école et enfin, sur le volet judiciaire, ouvrir le débat sur l'excuse de minorité. Le Premier ministre a annoncé donner 8 semaines pour faire aboutir le travail collectif de concertation souhaité par Emmanuel Macron, un Grenelle sur la violence des jeunes avec un point d'étape dans 4 semaines.
Gabriel Attal toujours dénonce, je cite, un entrisme islamiste, notamment dans les écoles. Le Premier ministre s'est exprimé à ce sujet ce jeudi soir. Il est également revenu sur l'interdiction de l'abaya à l'école, une mesure qu'il a lui-même mise en place lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale.
Vous avez, dans beaucoup d'endroits en France, des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire ce qu'on appelle un entrisme islamiste. Et donc oui, les préceptes de la charia, notamment dans nos écoles. Vous avez en face de vous, Madame de Malherbe, le ministre de l'Éducation nationale, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a pris une décision importante, interdire le port de l'abaya et du camis dans nos établissements scolaires, qui étaient utilisés pour détourner la laïcité, avec des groupes organisés qui appelaient des jeunes filles à porter une abaya à défaut de pouvoir porter un voile pour manifester ostensiblement leur religion et couvrir leur corps dans l'école de la République. J'ai pris la décision de l'interdire. Sur ce sujet-là, je peux vous dire que ma détermination, elle est absolue.
Dans le reste de l'actualité cette nuit, les opérations Place Nette voulues par le gouvernement se poursuivent sur le territoire. Une opération a été lancée à Rennes dans le quartier du Blône et elle a commencé vendredi dernier et va durer 3 semaines. Un premier gros point de deal a d'ailleurs déjà été démantelé par les forces de l'ordre. Le reportage sur place, signé Mickaël Chaillot, regardez.
Pour la première fois depuis très longtemps, les enfants s'amusent à nouveau sur l'aire de jeu au pied des tours. Le plus gros point de deal de Rennes, le 4 place du Bana, quartier du Blône, est en sommeil. L'opération Place Net, démarrée il y a une semaine, a permis de faire le ménage de printemps, selon les propres mots du préfet, synonyme d'interpellation et de saisie de stupéfiants.
Il y a un trafic qui est entre les mains de narcotrafiquants qui peuvent être amenés à se régler leurs comptes entre eux avec des armes lourdes.
Le préfet ne dit pas ça par hasard. La nuit du 9 au 10 mars, une fusillade éclate entre les Rennais et le gang des Parisiens pour le contrôle du point de deal du Bana, le plus lucratif de Rennes. Des impacts de balles sont retrouvés dans les halls d'immeubles, mais aussi dans les cuisines de particuliers. Depuis, les forces de l'ordre ne quittent plus les lieux, mais les habitants nous parlent toujours de façon anonyme.
Là, ils sont dehors, là, ils guettent. Hein. Bon, ils font mine de se promener, quoi.
Ils sont pas loin, ils sont cachés dans les appartements. Ils savent que la police est là, ils savent qu'il y a la sécurité, donc ils sont là, ils attendent juste le moment venu pour réapparaître.
Plus de dealers, place du Bana, mais toujours des consommateurs, comme ici, surpris à quatre pattes dans les toilettes publiques. Car dans le quartier du Blône, il reste encore une douzaine de points de deal en activité.
On en vient à cette question dans ce journal. Faut-il durcir les sanctions pénales à l'encontre des auteurs de rodéos sauvages? Eh bien, plus de 9 Français sur 10 ont répondu oui. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Vous le voyez, 93% des personnes interrogées ont répondu oui et 7% ont répondu non. La nouvelle conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine, interdite par la préfecture du Nord. Elle devait se tenir ce jeudi soir dans une salle de Lille avec la militante franco-palestinienne Rima Hassan. La préfecture a évoqué un risque de trouble à l'ordre public. Et mercredi déjà, l'université de Lille avait interdit cette conférence. Depuis Bruxelles, Emmanuel Macron s'est exprimé sur ces interdictions. Et selon le chef de l'État, eh bien tout le monde a le droit de s'exprimer.
Je pense que c'est très important dans les moments que nous vivons que l'ensemble des voix puissent s'exprimer de manière libre. Et qu'après, chacun puisse combattre les arguments qui sont exprimés librement. Je ne partage pas la vision des choses, ni sur le conflit au Proche-Orient, ni sur beaucoup de choses de Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que c'est important qu'il puisse exprimer sa voix. Et c'est la même chose pour M. Zemmour. Et je pense que ça a toujours été la force de la République, c'est de nous battre pour que toutes les voix puissent s'exprimer, toujours dans un cadre respectueux, mais qu'elles puissent s'exprimer, quand bien même nous combattons leurs idées, mais on le fait d'argument à argument.
Direction la Guadeloupe, dans ce journal, pour lutter contre la délinquance sur ce territoire d'outre-mer, eh bien Gérald Darmanin a ordonné un couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre. Cette mesure inédite entrera en vigueur la semaine prochaine et pour une période d'au moins 2 mois. Selon la préfecture de Guadeloupe, l'archipel compte 6 fois plus d'homicides que la moyenne nationale, Tancred Guillotel.
Une commerçante tuée lors d'un braquage mi-mars, des touristes blessés à l'arme blanche par une femme quelques jours plus tard. Le maire de Pointe-à-Pitre l'affirme, sa ville est devenue un vrai coupe-gorge. Avec un problème majeur, la délinquance des mineurs.
Avant c'était 12% de mineurs dans la commission des délits, maintenant c'est 38% des faits délictueux qui sont commis par des mineurs. Donc le préfet a bien compris que si les enfants sont chez leurs parents la nuit, ils ne vont pas brûler 70 poubelles comme ils l'ont fait à Pointe-à-Pitre la semaine dernière.
Instaurer un couvre-feu pour les mineurs, une solution validée par Gérald Darmanin. En déplacement à Pointe-à-Pitre, le ministre de l'Intérieur a annoncé sa mise en place à partir du début de la semaine prochaine pour une durée de 2 mois.
On ne peut pas laisser des enfants de 12, 13, 14 ans avec des armes circuler à 22h dans la rue, s'en prendre à des policiers, s'en prendre à des touristes, s'en prendre à des passants. Et donc cette mesure de fermeté est un rappel, chacune et chacun, que les mineurs sont sous la responsabilité des parents et que tous ceux qui seront après 20h en libre circulation seront interpellés et présentés, bien évidemment, à des sanctions.
Une mesure forte qui fait réagir les habitants.
Il y a longtemps que ça aurait dû être fait. Les parents doivent aussi s'y mettre.
Après ou avant 20h, ça ne changera rien du tout. Il y aura toujours des mineurs dehors, de toutes les façons. C'est une bonne idée, mais ça ne va pas changer grand-chose.
Une série de mesures accompagneront le couvre-feu. Gérald Darmanin a également annoncé plus de caméras de vidéosurveillance et la mise en place d'opérations Place Net pour lutter contre le trafic de drogue.
Lors du Conseil européen à Bruxelles, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la guerre en Ukraine. Le chef de l'État a réaffirmé le soutien militaire indéfectible de l'Union européenne à l'armée de Volodymyr Zelensky.
Pour ce qui est de l'Ukraine, nous restons plus que jamais unis et déterminés dans notre soutien, aussi longtemps qu'il le faudra et aussi intensément que nécessaire. La priorité est très clairement celle du soutien militaire à l'Ukraine, et c'est ce qui ressortait de nos échanges avec le président Zelensky.
Et puis cette information qui est tombée tard ce jeudi soir, les États-Unis ont mis fin à l'infime espoir d'adhésion des Palestiniens à l'ONU. Sans surprise, les États-Unis ont utilisé leur veto lors d'un conseil de sécurité. De son côté, l'autorité palestinienne fustige le veto américain dans un communiqué. Alors qu'Israël a promis une riposte à l'attaque sans précédent de l'Iran le week-end dernier, l'Iran assure qu'il fera regretter à Israël toute attaque contre son pays. C'est ce qu'a affirmé le ministre iranien des Affaires étrangères ce jeudi. Il s'est exprimé devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York.
En cas d'utilisation de la force par le régime israélien et de violation de notre souveraineté, la République islamique d'Iran n'hésitera pas une seconde à affirmer ses droits, à répondre de façon décisive et adéquate, à faire regretter ses actions au régime.
Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et l'exploit de l'Olympique de Marseille qualifié pour les demi-finales de l'Europa League. Aux dépens du Benfica à Lisbonne, défait à l'aller, les Marseillais ont comblé leur retard avant de s'imposer au terme d'une séance de tirs au but irrespirable. Le résumé de cette magnifique soirée pour l'Olympique de Marseille, Sylvain Michel.
La tension est palpable. Dans une ambiance digne des grandes soirées européennes, le début de match est animé. Mais brouillon, timides occasions de part et d'autre, Ndiaye pour l'OM, Rafa Silva côté portugais. Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas plus de réussite. Le Gabonais ne profite pas de la mauvaise passe de Di Maria pour concrétiser la petite domination olympienne. Marseille doit marquer pour se qualifier. Passer l'heure de jeu, le match est de plus en plus débridé.
Oh, 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 il l'a relâché ce ballon. Verretout ! Oh, quel miracle !
Les frappes marseillaises sont enfin cadrées, mais Troubine est impeccable. Comme Paulo Lopez de l'autre côté. 0-0 jusqu'à la 79e minute.
Aubameyang a levé la tête, il centre.
Ouais,
L'envol marseillais.
Égalité sur l'ensemble des deux matchs grâce à Moumbagna, prolongation. Puis tir au but sans Jordan Veretout au bout de l'effort et pris de crampe. Séance qui commence mal pour Benfica. Échec également d'Antonio Silva, aucun pour l'OM, 4-2. Marseille est en demi-finale de la Ligue Europa.
Et on va écouter l'un des héros de la soirée marseillaise, le défenseur argentin Leonardo Balerdi.
Je pense que c'est un des jours plus jolis de ma carrière sportive. Et ici à Vélodrome, avec cette supporter, avec mon père et mon ami là-bas. Et c'est magnifique, je suis très émotionné. J'espère que maintenant on a des choses à faire, j'espère qu'on continue avec ce chemin.
Et dans les autres rencontres de la soirée, l'Atalanta Bergame, futur adversaire de l'OM, crée l'exploit face à Liverpool malgré la défaite au match retour. L'AS Rome élimine l'AC Milan après sa victoire 2-1 et affrontera le Bayern Leverkusen. Qualifié après son match nul face à West Ham, un but partout, les demi-finales auront lieu les 2 et 9 mai prochains. En Europa Conference League, à présent, scénario cruel pour Lille, éliminé par Aston Villa. Battu 2-1 au match aller, les nordistes pensent avoir fait le plus dur en inscrivant les deux premiers buts de la rencontre grâce à Yazıcı puis André. Mais le but tardif d'Aston Villa sur une erreur de la défense lilloise envoie donc les deux équipes aux prolongations puis aux tirs au but. Le gardien argentin Emiliano Martinez, bourreau de l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde, a été une nouvelle fois impérial et envoie les Villans en demi-finale de cette compétition. On va écouter la réaction de l'attaquant lillois Jonathan David, forcément très déçu après cette rencontre.
On est déçu parce que c'était comme si on l'avait dans nos mains et tout s'est effondré. Alors bien sûr, c'est décevant. Mais je pense que dans l'ensemble, on a fait un très bon match. On a fait ce qu'il fallait. Et malheureusement, il marque ce but dans les dernières minutes du match.
Allez, un mot de tennis. Pour terminer ce journal des sports, Arthur Fils s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Barcelone. Le jeune Français de 19 ans s'est imposé en deux petits sets, 7-5-6-2 face à Alex Deminor, numéro 11 mondial. Et tombeur d'ailleurs de Rafa Nadal au tour précédent. Un résultat encourageant pour Arthur Fils à tout juste un mois du début de Roland-Garros. Allez, voyeurs, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Un troisième suspect est toujours activement recherché après la mort de Philippe à Grande-Synthe dans le Nord. Ce jeune homme de 22 ans aurait été victime d'un guet-apens dans la nuit de lundi à mardi. Les agresseurs se seraient fait passer pour une jeune fille sur un site de rencontre. Nous ferons donc le point sur les derniers éléments de cette enquête dans notre prochain journal. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle nuit sur CNews et je vous dis donc à tout de suite pour une prochaine édition.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.